Un anti-héros, pas forcément très beau, pas vraiment sûr de lui, pas du genre à briller de mille feux chaque fois qu'il apparaissait à l'écran ou qu'il foulait les planches, non. Un vrai anti-héros qui se plaisait à le rappeler et qui a joué avec panache les anti-héros jusqu'au bout, de l'adjudant-chef au violent vagabond, du boulanger cocu au grand-oncle halluciné. À l'écran, souvent, c'était le salaud, ou alors il en faisait trop. Un anti-héros, avec sa gueule, vous savez, de cinéma, son pif en forme de patate, sa voix, avec sa bouille, ses yeux qui roulaient comme des billes, sa bedaine, sa bonhomie, avec son art de la grogne aussi, il a été glorifié presque autant qu'il s'est gamellé dans le répertoire classique et dans le boulevard, dans le film d'auteur comme dans le nanar, mais toujours avec joie, avec un certain éclat. Pour beaucoup aujourd'hui, c'était le meilleur, même dans le pire. Il en faut des anti-héros, peut-être pour faire valoir les héros, peut-être aussi pour leur résister. Galabru, formidable anti-héros, ils sont rares ceux-là. Ceux qui, à force de faux pas, ont fini par revêtir l'étoffe des vrais héros.
Boomerang, boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité aujourd'hui s'est fait une spécialité des anti-héros à travers ses figures de gangsters dans Reservoir Dogs, de truands dans Pulp Fiction, de justiciers sanglants dans Kill Bill, Inglourious Basterds ou Django Unchained. Son huitième long métrage ne fait pas exception à la règle, jusque dans son titre, Les Huit Salopards, The Hateful Eight, un western horrifique et furieux en huis clos. Bonjour Quentin Tarantino.
Ah, bonjour.
Merci beaucoup d'être là. C'est quoi un héros de cinéma pour vous ?
J'ai l'impression que les héros de western sont plutôt des gens qui doivent gérer les lois, les règles de la loi. Ils ont quelque chose avec la morale à faire. Ils doivent travailler avec cette morale. Et je me retrouve, moi, attiré à ces personnages.
Dans votre cinéma, Quentin Tarantino, le héros, c'est forcément un anti-héros.
Well, very much so.
It's, oui, très souvent.
But you know, that's I think less of a comment I'm trying to make, but just
en même temps, c'est pas tellement un commentaire, une critique que je veux faire, mais c'est plutôt je vais dans ma direction. C'est un peu ma déconstruction du genre, si vous voulez. Donc, je ne veux jamais présenter une version noire et blanc des choses. J'essaie de montrer beaucoup de nuances de gris.
Mais qu'est-ce qui vous intéresse quand même chez les salopards ? Parce qu'il y en a beaucoup, des salopards, dans votre cinéma.
En fin du compte, je crois que sont des personnages intéressants à écrire, des personnages intéressants à travailler. Et puis, j'ai l'impression que le cinéma a besoin de ce genre de personnages. On peut écrire un roman sur un salaud méprisable, et ça peut être un très bon roman. Et j'ai eu l'impression qu'au cinéma, il fallait un peu plus que ça, qu'on avait... Il fallait que je me batte un peu là-dessus. J'ai envie d'aller dans cette direction.
Hey, you know, Mr. Brown, Mr. White, Mr. Blonde, Mr. Blue, Mr. Pink.
Why am I Mr. Pink?
Because you're a faggot, all right?
Any of you fucking fish move, and I'll execute every motherfucker.
Je suis sans pitié, sans scrupule, sans compassion et sans indulgence. Si je devais vraiment me venger, il faudrait que je te tue.
Each and every man under my command owes me 100 Nazi scouts.
I'm really sorry, kiddo, but you thought wrong.
See how he does into your Nazi boss.
You and I have unfinished business.
Ezekiel 25:17.
You ain't kidding.
Is that as good for you as it was for me?
Sons of bitches!
Hey, what's going on? You hear that?
Mr. Pink sounds like Mr. Pussy.
A Big Mac, c'est un Big Mac, mais ils disent le Big Mac.
Le Big Mac.
Qu'as-tu comme projet, Django?
Délivrer ma femme.
Là, pour le coup, je serai vengé.
And all y'all will get me 100 Nazi scalps taken from the heads of 100 dead Nazis.
Ça remettrait les pendules à l'heure. No doubt.
Ces personnages énervés, tordus, délicieusement déments. Est-ce que vous pensez, Quentin Tarantino, que le spectateur s'identifie un petit peu à eux?
Well, you know, here's the thing. I think possibly.
Vous savez, je crois que c'est possible. Oui.
Especially depending on who you are.
Ça dépend de quel genre de spectateur vous êtes. Mais moi, je crois que mes salauds à moi sont des humains, très humains. J'ai l'impression que l'on correspond et que ça marche pour nous, cette humanité-là qu'ils ont. Plus qu'avec les personnages de genre, ce que l'on présente d'habitude, comme des archétypes. Les gentils.
Alors, ce qui est intéressant dans votre nouveau film, qui se passe au lendemain de la guerre de sécession, c'est le lien que vous faites entre violence et justice. Une justice qui doit être délivrée sans état d'âme, une justice vengeresse, une justice de Far West, hein, comme vous disiez, qui repose sur la violence et qui exige la violence. Vous parlez d'hier, là, ou vous parlez d'aujourd'hui?
Ça, c'est une des situations dans laquelle j'ai commencé à écrire sur hier, le passé. Et je me suis rendu compte à quel point, en écrivant, à quel point j'étais finalement dans le contemporain et que mes personnages s'exprimaient comme des gens d'aujourd'hui et que finalement je parlais d'une situation contemporaine d'aujourd'hui. En même temps, c'est ça que j'aime dans les westerns. Les westerns, toujours, racontent quelque chose sur leur temps. Ils parlent des années dans lesquelles ils ont été tournés, plus que l'époque qu'ils décrivent. Les westerns des années 50 étaient vraiment dans l'époque Eisenhower. Les années 70 parlaient beaucoup du cynisme. C'était une histoire du Watergate, du Vietnam. En écrivant celui-là, surtout la séquence où Samuel Jackson et Walton et Chris Mannix ont cette discussion politique. Ils se bataillent un peu, il y a un argument. Et je me suis rendu compte, en écoutant ce qu'ils disaient, en réécoutant, je me disais, mais ça c'est l'Amérique d'aujourd'hui, ce dont ils parlent. C'est vraiment complètement ce qui se passe aujourd'hui.
Évidemment, je vous pose la question de cette actualité, parce que fin octobre, vous avez participé à ce mouvement qu'on a appelé Rise Up October, pour dénoncer des violences policières contre des délinquants présumés qui étaient noirs. Vous vous êtes attiré les foudres du syndicat de police de New York qui a appelé au boycott de votre film. Vous prenez position de plus en plus en tant que citoyen et en tant que cinéaste, Quentin Tarantino. Dans quelle mesure est-ce que pour vous, le cinéma a plus que jamais aujourd'hui une fonction politique?
Vous savez, dans ma carrière, ce n'est pas tellement dans ce terrain-là qu'on a pu me voir en tant qu'artiste et même en tant que personne publique. Je ne me suis jamais tellement engagé dans ce sens-là. C'est moi qui, tout d'un coup, passe à un nouveau chapitre. Et jusqu'à présent, j'étais assez fier, finalement, d'être en dehors de la mêlée. Mais là est arrivé un moment où je n'ai pu que m'engager. Je ne pouvais pas rester chez moi, regarder la télé et être le témoin d'un incident policier l'un après l'autre et de voir ces blacks être tués les uns après les autres, toujours accusés. Je me disais, mais il y a quelque chose qui se passe là. Et à un moment, il faut vraiment prendre parti. Il faut lever la voix. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Si jamais vous ne prenez pas la parole, alors votre silence est coupable. Et puis, en ce qui concerne mon film, effectivement, c'est un moment où je me suis rendu compte, en ayant fini l'écriture, que c'était un film assez politique. Mais je me rendais compte à quel point il était politique. Le film est devenu de plus en plus actuel, de plus en plus présent. Après que je l'ai écrit, d'ailleurs.
Vous seriez un visionnaire?
Non, je crois que c'est surtout que c'est le boulot d'un artiste. Si vous voulez être sincère et honnête, il faut vraiment rentrer en communication avec les choses, avec l'air du temps. Vous devez essayer de le faire. Mais on peut le faire que quand vous êtes ouvert et que vous êtes en liberté.
On va en reparler, bien sûr, mais d'abord place à l'actualité de la culture de ce mardi 5 janvier.
Ça fait 4 ans que vous m'emmerdez! Ça fait 4 ans que chaque année, vous ratez votre bac pour m'empêcher de manger tranquillement! Ce que vous souhaitez, c'est que je demande ma mutation en Ardèche, que je craque.
Mais je ne craquerai pas. Je resterai ici et je mangerai. Je mangerai mes carottes, comme tous les jours.
Calabru n'est plus, les hommages affluent et le monde du spectacle se presse pour lui tirer son chapeau ou son képi de gendarme tropézien, tandis qu'Isabelle Adjani pleure la dernière grande figure de drôle de drame. Alain Delon s'est dit profondément attristé par la disparition soudaine d'un très grand. Tous soulignent son talent évident, mais aussi son humour et sa générosité, comme le réalisateur Jean-Pierre Mocky qui résume bien le personnage. C'était un homme bourru, mais plein d'esprit. Salut, monsieur Calabru. Hi, hurra pour Coachella. Après avoir annoncé le grand retour des Daft Punk en 2013 et même ressuscité Tupac en 2012, le festival de musique le plus hype du monde s'apprête à orchestrer la reformation de deux groupes mythiques. La programmation de l'événement vient d'être révélée et confirme le grand retour sur scène des Guns N' Roses et de LCD Sound System Sensation. Côté français, on pourra notamment compter sur les Boom Girls, Christine and the Queens et les jumelles d'IBI pour faire chauffer le désert californien. Allez, viens, ce sera bien, bien, bien.
Chaque année, on fait la route des vins, mais sans sortir du salon.
Et chaque année, on change de route.
Voilà, et cette année, on a décidé de commencer par l'Est.
La chance.
Et croyez-moi, il vaut mieux nous avoir au début qu'à la fin.
Il paraît que le tournage a été arrosé, on n'est pas vraiment étonné. La bande-annonce de Saint-Amour, le prochain long-métrage de Benoît Delépine et Gustave Carverne, a été mis en ligne hier sur le site de France Inter. Road movie, viticole, casting de luxe. Le film s'annonce comme un grand cru. On y retrouve Gérard Depardieu, Benoît Poulvorde, mais aussi Vincent Lacoste et Céline Salette, sortie prévue le 2 mars prochain. Divin. Sourit à Harper Lee, va et poste une sentinelle, le deuxième roman de la romancière américaine de 89 ans et le livre le plus vendu de l'année 2015 aux États-Unis, d'après les données de l'Institut Nielsen, publié 55 ans après le cultissime Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Cette suite, qui évoque encore la ségrégation raciale dans le sud des États-Unis et qui a provoqué de vives polémiques lors de sa sortie, s'est écoulée à près de 1 600 000 exemplaires depuis sa publication américaine le 14 juillet dernier. Respect. Quentin Tarantino, invité exceptionnel de Boomerang, votre huitième long-métrage Les 8 salopards sort mercredi. Il paraît que ce film, c'est l'avant-avant-dernier, c'est ce qu'on lit partout. C'est ce que vous avez dit, que vous allez vous arrêter à 10 films. J'espère que c'est une blague. Hein.
No, that's not a joke.
Non, mais c'est pas une blague.
I'm expecting to be 10.
Mais j'ai envie d'en faire 10. Peut-être que ça sera 11. Mais je pense pas que ça va être 12, 13, 14, 15, non.
Mais il se passe quoi après?
J'ai l'impression que tous ceux qui ont suivi mon travail jusqu'à présent, depuis Kill Bill, voient que je vais plutôt vers des choses littéraires. Je me suis vraiment engagé sur l'écriture. J'écris beaucoup plus sérieusement. Et ce scénario-là, c'est vraiment mon meilleur scénario. Je ne sais pas si c'est mon meilleur film, mais mon meilleur scénario. Et si jamais je m'arrête à 10 films, je veux laisser une belle filmographie derrière moi. Et puis je veux donner au public le goût d'y revenir-y. Peut-être que je deviens plus un homme de lettres. J'ai envie d'écrire des romans, du théâtre. Et là, je m'engage déjà avec ce film dans cette direction.
C'est vrai que ce qui est très intéressant, Quentin Tarantino, c'est que c'est sur scène que le scénario des 8 salopards, qui repose sur un huis clos très théâtral, a pris forme lors d'une lecture publique, il y a un an exactement, devant 1600 personnes, dans un vieux cinéma de Los Angeles. Vous vous souvenez, vous, Quentin Tarantino, de la première salle de cinéma dans laquelle vous êtes entré? Aux États-Unis, souvent, on dit « a theater », un théâtre.
Mon souvenir le plus ancien, je crois, dans un cinéma, c'est en 66. J'avais 4 ans, je crois. Il y avait un super cinéma qui n'est plus là, à Montebello, qui s'appelle le Galmar. J'ai vu beaucoup de cinéma par la suite, beaucoup de films. Et aussi, j'allais au Cinérama Dome pour voir des films en cinérama.
Mais quel lieu est-ce que c'est pour vous, une salle de cinéma?
C'est un endroit sacré. Ce sont des cathédrales pour moi. Et c'est pour ça que à Paris, de toutes les rues, ma rue préférée, c'est rue Champollion. Vous savez, c'est un... Dans la rue, il y a plusieurs petits cinémas, c'est une rue que j'adore. Et j'ai donc décidé de devenir exploitant moi-même. Et j'ai un cinéma, moi, à Hollywood. Et on a une politique très claire, c'est que du 35 ou du 16 mm. Donc on ne passe que des films sur support téléfilm. Et ça me donne une joie immense. Je présente tous les films et j'adore ça. Et vous avez cet engagement aussi dans votre cinéma, parce que faire l'événement, réenchanter les salles de cinéma, c'est au cœur de votre démarche pour les 8 salopards, puisque vous avez tourné ce film Quentin Tarantino en Ultra Panavision 70 sur pellicule. Aux États-Unis, vous avez carrément organisé une tournée de 2 semaines pour montrer le film sur pellicule dans une centaine de salles équipées du projecteur adéquat. Tourner en 70 mm, organiser une tournée de promo de 2 semaines, comme ça se faisait en fait à l'âge d'or de Hollywood, c'est un acte de résistance ou c'est un acte de mégalomanie?
Maybe a little bit of both.
Un peu des deux, je crois.
And don't forget an act of madness. N'oubliez
pas que la folie n'est pas étrangère.
But it is a bit of an act of resistance.
Mais c'est un peu un acte de résistance. De résistance, mais aussi de folie. Un peu de mégalomanie, oui.
Love.
Et d'amour. Une célébration de ce que le cinéma peut être. Le cinéma qui est un événement. Mais moi, je crois que le temps passe. Et ces plaisirs-là du cinéma, on s'en écarte, on s'en éloigne. Et peut-être que les gens, aujourd'hui, les spectateurs, ne se rendent pas compte de ce qu'on a perdu quand on regardait des films dans les salles comme ça. Cette expérience de cinéma, là, va leur montrer ce que c'était. Et peut-être que ça leur donnera l'appétit de recommencer.
Par la vibration de l'image, par le grain, par la profondeur des couleurs, par le format exceptionnel, hein, panoramique. C'est vrai que c'est impressionnant. Et en même temps, je me demandais, Quentin Tarantino, ça vous arrive de vous sentir un peu en décalage avec votre temps, avec votre époque, avec ce passage, cette évolution du cinéma vers le tout numérique?
Ah oui, complètement. Complètement en dehors de mon temps. Oui. Mais je dois dire que je ne l'ai pas vu venir. Je pensais pas que les films pourraient un jour ne plus être tournés sur pellicule. J'avais jamais songé. J'aurais jamais pensé que l'industrie se serait organisée complètement différemment, et j'ai vu ça vraiment changer sous mes pieds. Et peut-être que je vais même plus arriver à faire mes 10 films. Bon, je pense que je vais y arriver. Le cinéma numérique, ce qu'il a, c'est qu'il a démocratisé le cinéma dans le sens qui n'existait pas auparavant. Le temps passe et on voit maintenant que des gens n'auraient jamais pu faire de film, ils arrivent à le faire, ils peuvent vraiment s'acheter un équipement pour tourner. Et donc des gens plutôt aux marges de la société peuvent arriver à faire des films eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose de mieux. Ça n'était jamais arrivé depuis 100 ans qu'existe le cinéma. Le côté négatif de cette démocratisation, c'est que vraiment, on a perdu le côté artiste et le côté très proche qu'avaient les techniciens de leurs matériaux. Il fallait vraiment que le directeur de la photo ait toutes ses lumières, qu'il ait tous ses détails, toute cette machinerie avec lui. Et pour qu'on ait à la fin, dans les salles, la même image, il fallait qu'il arrive à penser à toutes les générations que la pellicule devait engendrer pour être présentée. Et maintenant, cette histoire devient un peu un cancer de l'industrie, je trouve.
Alors retournons, Quentin Tarantino, un peu à l'artisanat. Moi aussi, j'aime le décalage, surtout quand j'écoute de la musique, de la country, par exemple, Dolly Parton. Vous connaissez sa si belle complainte, Jolene. Vous êtes sur France Inter avec Quentin Tarantino. Vous écoutez Boomerang.
Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. Talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene. choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
C'est une gueule de cinéma, un genre de géant survolté, vous savez, un monstre sympathique, avec pas mal de tics, quelque part entre l'échappé d'asile psychiatrique et le trader épileptique. Il a l'intensité de ses petits yeux plissés, vous savez, quand il vous parle de cinéma. Il a une passion qui déborde de ses minces lèvres, et il a ce menton qui, s'il était un nez, serait une péninsule. Non, essayez de vous l'imaginer quand même, c'est une sorte de titan en tenue de ville, veste grise, gentiment boutonnée, chemise, pantalon noir, tennis. Il est volcanique, il est tellurique. Il est mythique, l'immense cinéaste Quentin Tarantino, mon invité dans Boomerang pour parler des 8 salopards, son nouveau film qui sort demain, un film conçu autour d'un huis clos en fait, comme dans Reservoir Dogs, autour d'une auberge qui évoque celle d'Inglourious Basterds. On trouve une diligence comme dans Django Unchained et même une scène de True Romance. Tant de clins d'œil, Quentin Tarantino, à votre cinéma en tant que réalisateur et en tant que scénariste. C'est pas innocent. Ça veut forcément dire quelque chose. C'est une façon de jouer avec vos fans ou de prendre un petit peu de distance, vous, avec votre cinéma.
J'ai l'impression que c'est une évolution naturelle dans mon travail. Je me rappelle quand je me suis rappelé de l'histoire, quand j'ai inventé. Je me demandais ce que j'allais faire après Django. Et ces deux films sont très différents, mais il y a quand même un lien entre eux.
Et
une fois encore, je ne m'étais pas rendu compte à quel point on pouvait décrire ce film comme un Reservoir Dog en western. Le sujet semble différent, mais en même temps, c'est un peu la même chose. Moi, ce que je vois, c'est un cordon ombilical entre ces 8 films, depuis les premiers. Et j'ai l'impression que c'est un cercle-là qui se clôt avec ce film, depuis Reservoir Dogs.
Un film de Tarantino, on doit le reconnaître au premier coup d'œil.
J'ai l'impression que si vous regardez 5 minutes du film, 6 minutes, j'ai l'impression que si vous connaissez mes films auparavant, oui, vous avez sans doute compris que c'est un film de moi.
Alors l'histoire des 8 salopards, elle est assez simple. On est après la guerre de sécession dans le Wyoming, au milieu d'une tempête de neige. 8 types assez louches se retrouvent coincés dans une auberge, et cette auberge, elle se transforme en scène de théâtre où va se libérer une parole jubilatoire, un jouissif, quasi hypnotique. Vous parliez du scénario tout à l'heure, Quentin Tarantino. C'est quoi un bon scénario pour vous?
That's hard to say.
Difficile à dire.
I actually think what makes a great script.
Je vais vous dire ce qui fait un bon scénario.
A good story.
C'est une bonne
histoire.
Now that's
an easy thing to say.
Alors c'est facile à dire comme
but,
ça.
You have to realize that.
Il faut se rendre compte que
when Hollywood was maybe at its finest.
Hollywood était dans ses meilleures années, à la grande époque.
Stories were very very important, but a story
les histoires étaient très très importantes, mais ce n'est pas qu'une situation.
And that's how I feel a lot of films have been in the last.
Et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé depuis à peu près 20 ans. On n'a pas de vraies histoires, on a des situations.
And then a situation is set up.
Une situation est mise en place et puis le reste du film, on continue la situation. On va jusqu'à la promesse, on va jusqu'au plaisir, le maximum que l'on peut tirer de cette situation. Une histoire, ça se raconte. Une histoire, c'est une évolution. Une histoire, ça avance. Quand on regarde les 20 premières minutes, on ne sait pas comment ça va finir. Parce qu'on n'est pas encore passé par toute l'histoire. C'est quelque chose qui évolue tout le temps. Et ça a toujours fait partie du cinéma, mais ça a été perdu ces dernières années.
Est-ce qu'il vous reste une petite place ? On appelle ce type le bourreau. Quand il y a mort ou vif écrit sur l'affiche, nous autres, on te tire dans le dos du haut de notre perchoir et on rapporte ton cadavre couché sur la selle. Mais si t'es arrêté par John Rousse, le bourreau, tu te balances. bout d'une corde.
Attrapez-le, les gars!
Votre film, Les 8 salopards, Quentin Tarantino, il commence comme un western, c'est-à-dire qu'il s'ouvre sur l'image d'une diligence qui, en l'occurrence, fonce à travers la neige. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va très progressivement s'approcher d'un autre cinéma de genre, qui est celui du film d'horreur. Vous rendez toujours hommage, hein, j'ai l'impression, à ce qu'on appelle le film de genre, qu'il s'agisse du film de gangster, du film de kung-fu, du western spaghetti, de l'horreur ici. Qu'est-ce qui vous fascine à ce point dans le genre et qu'est-ce que ça vous permet surtout, le genre ?
Well, it's what I do. I mean, I consider myself a genre filmmaker.
Moi, je suis un cinéaste de genre.
I'm there to examine it.
Je suis là pour travailler le genre,
I'm there to dissect it.
Pour le disséquer,
I'm there to play with it.
Pour jouer avec.
And, hopefully, the idea is
et
to
avec un peu de chance, je le transcenderai.
Inventer un genre, créer un genre, c'est votre ambition, Quentin Tarantino?
Well, I guess to some degree or another,
eh bien, d'une façon ou d'une autre,
it is. I mean, I don't know
oui.
if Hateful Eight makes a new genre.
Je ne suis pas sûr que ce film crée un nouveau genre. C'est plutôt une exploration du genre existant. C'est peut-être un western sous la neige. Ça, c'est un nouveau genre. Mais dans Reservoir Dogs, dans Pulp Fiction, c'était plutôt un nouveau style que je faisais dans les genres de gangster, par exemple. C'était un nouveau genre, un nouveau style. Pulp Fiction, et Reservoir Dogs ont inspiré beaucoup de nouveaux films de genre de gangsters. Et je suis content d'avoir fait partie de ce mouvement.
Dernière question, Quentin Tarantino. On sait que vous êtes un immense cinéphile. On l'a entendu encore ce matin. Votre définition du cinéma, ce serait quoi?
Thanks for giving me such a heavy listening question for the
last one.
So the André Bazin book. What is cinema?
André Bazin. Qu'est-ce que le cinéma? Vous connaissez ce livre?
Well, cinema is I make movies.
Moi, je fais des films
that some people
que certains
really adore.
Adorent.
And I make movies that some
et je fais des films que certains
don't like at all and they'll
détestent
never like.
Et qu'ils détesteront toujours.
Really make them, jerks or stupid.
Ce n'est pas des imbéciles pour autant.
Because there's enough for everybody.
Parce qu'il y a
there.
De tout pour tout le monde dans le
and
cinéma.
Now, the bigger appetite
si vous avez un grand appétit pour différents genres de films, alors vous allez devenir connaisseur en cinéma. Mais tout va bien d'être spécialiste d'un genre ou d'un autre. Mais j'ai l'impression que je
ne
peux pas vous dire ce que le cinéma est. Ce que je peux vous dire, c'est définir ce que c'est que mon cinéma à moi.
C'est born.
Et ce cinéma-là, il est né de l'idée du film de genre, des films B, des séries B, et de prendre ces films-là, ces genres, et les ramener vers l'expérimental, et d'essayer de les combiner avec le cinéma expérimental. Et j'espère, du coup, avec ça, faire plaisir et satisfaire les deux publics.
Merci, Quentin Tarantino, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Les 8 salopards, avec Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Tim Ross, Bruce Dern, ou encore Jennifer Jason Leigh, dans un de ses rôles les plus jouissifs, sort demain. Et comment vous dire, c'est vraiment du cinéma. Merci beaucoup d'avoir été là. Tout de suite, l'Instant M, l'Instant Média de France Inter, avec Sonia De Villers. Juste après ça,
au revoir.
Baby, That's You, Deluxe et M sur France Inter. Et tout de suite, l'instant M, l'instant média, avec Sonia.
Baby, That's Me, en gros.